Hey ho, let's go pour la 510e émission de Plume et Pinceau, une émission avec moi-même, l'Irlandais, mon bon vieux Roger Fringant.
Non, vous, c'est Plume.
Oui, alias Monsieur Plume, Monsieur Pinceau, voilà. Très en verve, décidément.
Plus viril, Monsieur Pinceau. Monsieur Plume, il y a un petit côté féminin que je vous laisse.
Voilà, c'est bon, un lancement classique, on va dire. Et nous avons un invité aujourd'hui, vous pourriez quand même le présenter au lieu de...
Monsieur Nicobi, un habitué avec Monsieur Lefeuvre et bien d'autres de Plume
oui,
et Pinceau.
Mais ça ne change pas ici.
Ah, il a, ouais, ça change pas, comment dirais-je, en attendant qu'on soit chassé nous-mêmes, ça ne change pas beaucoup. Et vous êtes un peu à l'habitude, c'est un peu votre ronde-serviette à monsieur Nicobi qu'on ne présente plus, du haut de la pile d'ouvrages de bande dessinée qu'il a déjà publié chez tant et moult éditrices et éditeurs.
Exactement.
Voilà. Un homme qui dessine debout.
Voilà. Et qui, en plus, fait partie du comité organisationnel de Quai des Bulles. Vous nous préciserez peut-être plus tard votre fonction. Peut-être que...
Ouais.
Et après préambule, on s'est dit, bon, on va aider, puisqu'on en est à aider les petits festivals qui démarrent. on va essayer de faire un peu de promotion pour un petit festival, ma foi, qui se targue d'être le deuxième de France, quand même.
Il gagne à être connu, ouais, c'est vrai, merci. Hein.
Et il s'appelle, naturellement, tout le monde le connaît, Quai des Bulles, voilà. Et donc l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de ce qui va se passer dans ce fameux Quai des Bulles 2025, les expos, etc. Et puis aussi, vous ne faites pas partie simplement du comité organisationnel, vous êtes aussi un créateur de visuels puisque vous avez travaillé sur une exposition autour du monde de Franquin, Idées Noires, si c'est bien pour être précis.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, et quand vous m'en aviez parlé l'autre jour, eh bien je me dis que ça serait quand même bien qu'on parle de ça à Quai des Bulles parce que... Plume et Pinceau, pardon.
Parce que nous, c'est Plume et Pinceau, nous.
Voilà, parce que,
parce
Franquin,
que moi, je suis Plume et toi, t'es Pinceau, je te rappelle.
Monsieur Franquin, c'est quand même une référence dans le monde de la bande dessinée, sans qui, peut-être, vous-même, vous ne seriez pas là aujourd'hui.
C'est tout à fait exact.
Voilà. Bref. On s'écoute un petit dix et puis on commence à torturer Monsieur Nicobi.
Impeccable. Retour dans les années 90.
Thank you.
Counting Backyard, un extrait de Riel Ramona, un excellent album des Froid Muses que les plus anciens auront reconnu. Nous allons parler du festival, mais en fait, l'actualité nous rappelle qu'avant le festival Quai des Bulles, il y avait déjà en fait un festival de BD à Saint-Malo. Et qu'en quelque part, le festival Quai des Bulles est une évolution de ce premier festival né en 80.
Ouais,
si je ne me trompe
80.
Pas.
En fait, aujourd'hui, donc, on a appris le décès de Jacques Plouette, qui était le directeur de la Maison pour tous, où a eu lieu le premier festival de BD de Saint-Malo. Alors, j'imagine que c'était trois planches sur deux tréteaux à l'époque, et que ça n'allait pas beaucoup plus loin. Quoi. Il y avait, avec lui aux manettes, il y avait Dieter, il y avait Jean-Claude Fournier, et puis Alain Goutal déjà. Et donc cette équipe a fait le festival et puis l'a fait grossir d'année en année. Donc ça date de 81.
Riche année, décidément.
Décidément, que de réussite. Et puis rapidement la rigueur.
Tout à fait, c'est le sens de l'histoire, hélas.
Et donc en 91 plus exactement, il y a eu une année blanche où il n'y a pas eu de festival. Entre-temps, le festival de BD s'est un peu transformé en Étonnant Voyageur. Et la BD s'est émancipée d'Étonnant Voyageur en revenant avec à nouveau un festival de BD qui s'est appelé Quai des Bulles. En 92, et qui est vraiment la continuité de cette création de Jacques Plouette et les siens.
Voilà. Une petite pensée pour lui.
Bah oui, on peut même lui dédicacer l'émission quelque part, parce que, encore une fois, vous ne seriez peut-être pas là, et nous non plus, sans le travail de ces obscurs, ces 100 grades. C'était un dessinateur, lui, ou quoi ?
Pas du tout, non, c'était un associatif. Je ne l'ai pas connu, moi, je suis arrivé bien après, mais c'était un associatif, un type motivé par la vie de sa commune. Comme il y en a tant, et qui s'est appuyé, ou plutôt sur lesquels se sont appuyés, je ne sais pas qui a soutenu l'autre, le groupe de dessinateurs qui voulait faire ce festival. Quoi.
Alors justement, c'est peut-être ça aussi l'originalité du festival Quai des Bulles, mais vous allez me dire si je me trompe. En tout cas, il me semble qu'à Quai des Bulles, dans l'équipe qui essaye d'organiser tous les ans, de faire tourner cette grosse machine, il y a énormément de dessinatrices et de dessinateurs. Est-ce que je me trompe, Jean ?
Non, c'est assez vrai, il y en a pas mal, il y en a, c'est loin d'être la majorité, mais il y a peut-être un tiers, je dirais, de l'équipe qui est auteur, plus ou moins professionnalisé, je dirais, mais enfin, plus ou moins publiant plutôt, mais il y a quand même un bon tiers d'auteurs ou de plasticiens, quoi. Et une équipe de permanents quand même, parce que c'est un festival qui a beaucoup grossi, donc qui nécessite une logistique de dingo en fait.
On recevait il y a 15 jours Préambule, et c'est vrai que Préambule, c'est rien à voir dans la mesure où c'est quand même une beaucoup plus petite structure, pas de permanent, etc. Et vous les aidez d'ailleurs, vous leur donnez un coup de main, notamment pour l'Internet.
Leur blog.
Pour le blog.
Préambule ?
Oui,
mais on me l'apprend, dites donc.
il y a vos dessins partout, me dites.
Ah oui, moi, pardon, je croyais que c'était Quai des Bulles. Ils m'ont sollicité, je suis illustrateur, ils m'ont commandé des illustrations, comme ils voulaient des illustrations magnifiques, ils ont su. Mon numéro de portable est en lien sur la page de l'émission. Non mais oui, en fait, c'était des très proches, l'équipe de Préambule, comme j'habitais vraiment à l'époque juste à côté de chez eux, on se suivait beaucoup. Et donc oui, j'ai pu participer aux illustrations du blog, du site, qui est chouette d'ailleurs, il est vraiment très efficace leur site.
Une jolie affiche qu'ils avaient cette année, avec la dessinatrice ou dessinateur, je ne sais plus, de la série
Brume.
Voilà, Brume. Qui fait un carton chez les
Karine Inder.
Chez les 7-77 ans, je crois.
Et plus si affinité.
Vous avez cherché.
Mais vous-même, comment vous êtes rentré effectivement? Comment on finalement, un dessinateur intègre cooptation, volontariat. Est-ce qu'il y a des rituels, initiations, secrets ?
C'est un festival qu'on a tous connu dans la région quand on s'intéresse un peu au truc. Mon ami Roger en sait quelque chose parce qu'on a... On a nettoyé les fesses des chaises du Palais du Grand Large, du temps où on faisait des fanzines ensemble.
Tout à fait.
On était tous les deux en culotte courte.
Ouais.
Il avait déjà un peu de barbe.
J'avais des roues flaquettes à l'époque.
Donc on a commencé, enfin moi j'ai commencé par être un ado fanzineux qui mettait un premier pied dans ce truc-là. Alors déjà un visiteur évidemment avant, mais ensuite un ado fanzineux qui était derrière sa table. Donc c'est quand même des souvenirs très importants pour moi. Et puis après c'est mon camarade Joub qui était avant moi dans l'organisation qui m'a proposé d'intégrer l'équipe, quoi. Et ça m'a vachement plu, donc je suis venu regarder comment ça se passait. Et puis assez vite je me suis retrouvé associé à certains projets. La première expo que j'ai fait là-bas, c'était sur Yvan Delporte, qui était vraiment un mythe absolu pour moi en plus. Donc
ouais, on l'a vu souvent à Quai des Bulles.
À une époque, il venait beaucoup. Ouais.
Ouais, on ne pouvait pas le rater avec une barbe géante.
C'est ça, une barbe géante et un fauteuil roulant souvent. Sur la fin, il était roulant. Ouais. Et enfin voilà, c'était aussi un moment important pour moi parce que il était en bonne place dans mon panthéon, cet Yvan Delporte. C'était l'ancien rédacteur en chef de Spirou, pour ceux qui savent pas, dans les années 60.
Et co-auteur du Petit Trombone Illustré.
Bah ouais, à l'origine du Trombone Illustré, et puis surtout co-créateur de Gaston. Il a aussi vachement fait des scénarios de Schtroumpf, des trucs comme ça. Enfin, finalement, il est vraiment au nœud de toute la BD belge dupuisienne de ces années-là, quoi.
Et donc, vous avez intégré. Ça se passe comment? C'est une association qui débule toujours?
Ouais, on met des grandes cagoules, on voit que les yeux. Non, c'est une association. Il y a trois entités. Il y a un conseil d'administration qui gère tous les trucs un peu chiants, en fait, hein, pour résumer.
Subventions, comptes, etc. Vous n'en faites pas partie, donc?
J'en ai fait partie, mais c'est vraiment pas trop mon truc. Enfin, bref, il y a un comité d'organisation et il y a des permanents. Et donc, l'idée, c'est que le conseil d'administration définit une enveloppe qui est ensuite confié au comité d'organisation pour bâtir le contenu du festival, quoi. Et les permanents sont là pour faire que tout ça soit possible.
Voilà. Et vous faites partie maintenant du comité d'organisation.
Je fais partie du comité d'organisation. Et en plus, au sein de ce comité d'organisation, comme c'est un gros groupe et qu'il y a notre festival grossissant, l'équipe grossissant aussi un petit peu, il y a une espèce d'inertie qui est fatale dans ce genre de situation. Et pour contrer ce truc-là, on a mis en place un trio de direction artistique. Donc trois personnes du comité organisation qui sont choisies pour être les directeurs artistiques du festival.
D'accord.
Et donc moi, je fais partie de ce truc-là. C'est des mandats de 3 ans renouvelables.
Donc vous êtes directeur artistique du festival. Co-directeur.
Ouais, c'est ça.
Un triumvirat.
Exactement. Alors, évidemment, c'est pas un truc, comment dire, de dictatorial, quoi, parce que nos envies reposent sur la bonne volonté des membres de l'association. Donc, fatalement, c'est vraiment dans la fluidité décisionnelle que c'est précieux, ce truc-là.
Mais par contre, vous donnez vraiment une couleur, finalement, au festival.
Ah bah, on essaye, mais ça fait très longtemps qu'on essaye de donner au sein du comité d'organisation une couleur et d'avoir un peu de pertinence dans nos choix, quoi, d'essayer d'avoir des choses assez variées. Par exemple, on essaye d'avoir quelque chose qui s'adresse à la jeunesse, on essaye d'avoir quelque chose qui s'adresse aux auteurs qui vont être en balade. Donc, cette année, par exemple, une exposition Franquin, je sais bien que la plupart des auteurs ont déjà un peu des étoiles dans les yeux quand on leur en parle, quoi.
Ouais, c'est clair.
Des choses qui s'adressent...
On pourra vous aider à le démonter ?
Ouais, bien sûr, comme d'habitude.
Et vous nous aviez demandé, vous n'avez pas peur, vous nous aviez demandé de démonter l'expo Flux Glacial avec vous, de vous donner un coup de main. Et je me rappelle avoir tenu nombre d'originaux de Gossin, c'est pas un qui passait sous ma veste, c'est bien dommage.
C'est vrai, c'est bien dommage.
Je t'avais dit de mettre ton impair.
Ouais, j'aurais dû mettre un impair plus grand.
Il dessine trop grand.
Et donc, c'est ce triumvirat là qui va orienter le choix des expos. Pour en donner un exemple d'expo, vous dites qu'effectivement, c'est pour tous les publics. Il y a une expo qui a été réalisée par M. Laurent Houssin et son épouse, je crois. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Autour de l'autrice de Tom Tom et Nana, qui, dans la foulée, nous a quittés. Ça n'a aucun lien, par contre.
Ça n'a aucun lien avec le fait qu'elle nous ait quittés. Mais son idée, c'était encore... Ouais, ça a fait un carton, mais c'était encore autre chose. Son idée, c'était de confronter... Bernadette Després, l'autrice de Tom Tom et Nana, à Anouk Ricard, qui était une autrice jeunesse, mais d'une génération plus récente. Et du coup, il se passait un truc qui était, de mon point de vue, encore plus malin et plus intéressant que si on avait fait une expo de chacune de ces deux dames.
Mmh. Donc, donc des auteurs peuvent venir vous voir avec des projets et puis vous faites un peu comité de lecture quelque part.
Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Après, Laurent, c'était la première fois qu'il faisait une expo seul pour nous. Il avait déjà participé à une expo avec d'autres au sein de l'équipe. On se connaissait un peu comme ça quand même avant. Mais oui, on reçoit des propositions de temps en temps. Il y a un peu de gestion de groupe là-dedans. Il faut aussi qu'on trouve le... à nourrir entre guillemets ceux qui font le comité d'organisation. Donc on joue avec tout ça quoi, en essayant de satisfaire les envies du moment de chacun. De temps en temps on essaie aussi de motiver l'un ou l'autre pour réussir à l'embarquer sur un projet qui n'était pas forcément celui sur lequel il pensait se porter initialement. Mais c'est de la vie de associative quoi.
On vous découvre des trésors de diplomatie finalement.
Alors justement, d'autres gens dans ces cas-là. C'est un festival qui maintenant, d'après ce qu'on lit, d'après ce qu'on nous dit, qui est le deuxième festival de France en termes de bande dessinée, en termes de fréquentation, c'est bien ça?
C'est ce qu'on dit, ouais. Je pense que c'est le cas.
Alors, on peut revenir un peu sur le premier, qui, lui, le Festival d'Angoulême, qui semble cumuler les emmerdes. Un bon Festival d'Angoulême sans polémique, c'est pas un festival. Et comment ça se fait que Quai des Bulles est épargné par ce genre de soucis?
Bah, parce qu'on est les deuxièmes. Mais c'est vrai, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est que, à mon avis, Angoulême, ils peuvent rien faire sans être scrutés à la loupe.
Plus tu montes en haut du cocotier, plus on voit ton cul.
Il y a des complications en plus qui s'ajoutent à ça, mais je pense que même s'il n'y avait pas des complications internes, il y aurait quand même ce côté où chaque prise de décision est analysée par tout le monde. Et comme c'est quand même compliqué d'avoir tout le monde d'accord, bah, ceux qui ne sont pas d'accord font beaucoup de bruit.
Tout le monde s'en fout, je crois. Il n'y a pas un côté plus associatif, en par contre. Parce que je sais que, pour Angoulême, l'association à l'origine de cet événement culturel a donné les clés de la machine à une boîte privée, en fait.
Ouais.
Et ce n'est pas ça le souci, justement, parce que du coup, ils n'ont plus véritablement la main sur le projet, dont certains choix...
Pas la même approche, quoi.
Ouais, puis certains choix, comme choisir Raja, un des princes de la pollution, comme vendre, promotionner un Alfred Écolo, c'est un peu...
Ouais, mais ça, c'est toujours compliqué, parce que ce genre de manifestation a besoin de gros partenariats. Des gros partenariats qui sont propres, c'est quand même très, très dur. J'imagine que pour eux, c'est la quadrature du cercle. Hein. Toute décision est un peu foireuse et l'absence de décision est ce qu'il y a de pire encore, parce que s'il n'y a pas de partenaire, il ne doit pas y avoir de festival. Je pense que c'est de cet ordre-là.
Ouais.
Et sur l'association d'origine qui a délégué son pouvoir, là, à mon avis, c'est la même chose. C'est-à-dire que le truc il est tellement énorme que ça, c'est hors de compétence de l'association d'origine. Il y a un moment où, nous on en voit un peu les limites aussi, hein. J'imagine qu'il y a un moment où Quai des Bulles, c'était que des bénévoles et il a fallu créer un poste de permanent et sans doute que le même genre de question s'est posé à ce moment-là. Je pense que tout ça se fait petit à petit, puis il y a un beau jour où on se dit mais en fait c'est vraiment trop gros, il faut y consacrer un temps plein ou deux ou trois ou quatre et on peut tout faire nous le dimanche et en soirée. Quoi.
Est-ce que comment on fait pour une asso pour se dire oh là, il ne faut pas qu'on grossisse trop, ça, c'est une problématique qui sur laquelle vous échangez.
Nous on a travaillé là-dessus et on n'a pas réussi.
Oui, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on puisse contrôler. Je veux dire, si à partir du moment où le public vient, tu as un effet de foule et donc forcément, tu as de plus en plus d'attentes. Et puis, du coup, tu peux être aussi plus ambitieux.
C'est le public et c'est aussi les exposants. Hein, parce que nous, ce n'est pas au niveau du public qu'on a essayé de le juguler. C'est au niveau des exposants, en limitant un peu les trucs. Et en fait, on se rend compte que la demande est toujours plus forte.
Alors, ce qu'on appelle les exposants, c'est toutes les éditrices, éditeurs.
Toutes les maisons d'édition qui viennent prendre des espaces, maisons d'édition et puis quelques autres libraires et trucs comme ça. Et ça, c'est vachement dur. Une année, on avait essayé de limiter en limitant les places de restauration. On s'est dit, on va réussir à faire en sorte de pas trop passer la barre des, je sais plus, je crois que c'était 300 auteurs qu'il y avait à ce moment-là. L'année où on a mis ça en plus, il y en a eu 100 de plus dans l'année. On est passé de 300 à 400. C'était juste inefficace, notre truc.
Vous voulez leur couper les vivres. Ils n'auront rien à bouffer, ils ne vont pas venir. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça fait plusieurs fois qu'on y va avec Roger, et puis quand on se promène le soir, c'est vrai que dans le festival, et on voit que dans la vie des auteurs, c'est aussi un moment de retrouvailles, quoi. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a tellement d'auteurs qui viennent. Il y a quand même quelque chose de... Enfin, vous qui êtes dans la profession, il y a quand même une atmosphère un peu réunion de famille, non ?
Ouais, c'est vrai. Comme il y a Angoulême d'ailleurs, mais avec une saison un peu plus clémente, et puis ah la ouais. mer, et puis full de restaurants, parce que c'est aussi ça l'énorme avantage de Quai des Bulles, c'est qu'on est à Saint-Malo, donc il y a des infrastructures pour loger tout le monde. En Angoulême, souvent, on est logé assez loin.
Pour loger, pour faire boire et manger tout le monde.
Ouais, exactement. Et donc ça, c'est bien. Après, tous les festivals, c'est le but qu'on recherche en tant qu'auteur. Mmh. C'est en fait pas tant pour aller présenter nos œuvres, c'est surtout pour avoir des moments de convivialité avec des collègues, parce que c'est un boulot assez solitaire. Donc ça, c'est précieux pour nous. Quai des Bulles, dans la mesure où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs et de monde, c'est la garantie qu'on va connaître quelqu'un, en fait, quand on arrive là-dedans.
On ne mangera jamais seul.
On ne mangera jamais seul. Et il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'éditeurs. Donc c'est les éditeurs en profitent pour faire... resserrer leurs troupes, faire du team building. C'est un petit côté séminaire, en fait, à Saint-Malo. Et en plus, c'est l'occasion de rendez-vous pro. Et ça, c'est pas mal. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent à Saint-Malo en sachant qu'il y a des éditeurs et que ce sera l'occasion d'échanger, de discuter, etc.
Et d'ailleurs, des apéros d'éditeurs aussi. Alors, nous, on n'est absolument pas concernés par la production d'ouvrages, mais on écume quand même les apéros d'éditeurs.
C'est vrai.
Je sais où se tiendra d'ailleurs le pot en Kama vendredi.
Mais quand vous négociez donc avec les maisons d'édition, enfin vous c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a des chicailles, vous savez, pour l'emplacement dans les grandes tentes là? Parce qu'il y a des endroits hyper stratégiques et tout c'est du Tetris, ça.
C'est exactement ça, ouais. C'est du Tetris. Je sais qu'il y a des demandes des uns et des autres. Moi, je ne suis pas trop sur cette partie-là. Je sais qu'il y a des demandes, qu'il y a souvent des gens qui pensent qu'ils ne sont pas bien placés. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont très bien placés. Des fois, ils sont au même endroit.
c'est mieux que l'année dernière.
Ah ouais, ils doivent se baser sur les chiffres de vente qu'ils ont fait, quoi.
Ouais,
soit ils vendent bien et c'est une super place. Soit ils vendent pas bien et c'est pas une bonne place, mais franchement je sais pas comment ça se gère, ce truc.
Alors ça, c'est une rentrée d'argent pour le festival. Hein.
Ouais, ça c'est une des principales.
Alors on m'a dit que vous n'étiez pas parmi les plus gourmands. C'est combien le mètre carré? Vous avez une idée?
Non, absolument aucune idée. Je sais qu'il y a plusieurs tarifs en plus.
Ah. Ouais, je crois que c'est 3 poulets et une vache pour le mètre carré.
Alors on m'a dit que vous n'étiez pas parmi les plus gourmands.
Ouais, on
n'est
pas les plus gourmands, mais on n'a pas envie d'être parmi les plus gourmands. Après, je pense qu'un éditeur trouverait que c'est cher parce que c'est quand même une sacrée dépense. Et puis à côté, il faut qu'il loge ses équipes, etc. Donc c'est quand même des frais conséquents. Et je sais qu'il y a plusieurs tarifs, mais alors là, je suis bien infoutu de dire quels sont ces tarifs. Mais il y a un tarif fanzine, il y a un tarif auto-édité, il y a un tarif éditeur, il y a un tarif je sais pas quoi. Voilà.
On s'écoute un petit dix et puis encore j'aurais 2 ou 3 questions d'ordre général à vous poser avant qu'on rentre dans le détail de Quai des Bulles 2025.
Un morceau ensoleillé, Percy Face. Ouais.
Thank you.
Cette interlude musicale vous était offerte par Roger, qui paraît-il est Monsieur Pinceau.
Ouais, parfaitement, moi je suis Monsieur Pinceau, et j'aime bien retourner justement le pinceau dans l'encrier. Non, c'est pas dans les encriers que vous trempez les pinceaux en général en tant que pro.
Si, tout à fait.
Bon, ben voilà. Et je voulais, parce que parfois, Quai des Bulles, comme Angoulême, a connu quelques polémiques, quelques mouvements, je sais pas. Alors, c'était pas forcément des mouvements d'humeur qui étaient tournés contre Quai des Bulles, mais qui démontraient une certaine insatisfaction, on va dire, de la part des autrices et des auteurs. Je me rappelle avoir assisté à une débrayure, à une autre année, ouais, à des manifestations, vrai, etc. Et je voulais savoir où se plaçait. Alors, peut-être pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait des autrices et des auteurs parmi le CA de Quai des Bulles. Peut-être que ça évite justement ce genre de soucis.
Ben, ça évite ou au contraire, ça les accompagne. Puisqu'en l'occurrence, ce débrayage, il s'était fait en organisation, enfin en bonne intelligence, ouais, avec nous, quoi. Ils avaient prévenu de cette envie. Parce qu'en fait, comme Quai des Bulles est identifié comme un festival d'auteurs, on est pas mal associé à ces... assez problématique et aux prises de décision, et c'est naturel pour nous aussi de les accompagner.
Oui, des problématiques de droit, d'argent, de travail rémunéré.
Ce genre de trucs. Nous, depuis très très longtemps, on rémunère tous les gens qui participent au festival. Évidemment, on a été pionniers aussi dans la rémunération de la dédicace, quand ça s'est mis en place, et même assez impliqué dans vraiment la mise en place du processus au niveau national.
Alors on en est où alors pour la rémunération des dédicaces?
Le cercle vertueux fonctionne très bien, parce que il y a eu un... Alors c'est en place depuis quelques années. Il y a eu un accord tripartite entre le CNL, la SOFIA est l'instance invitante. Donc dans notre cas, c'est tantôt Quai des Bulles pour quelques auteurs, mais surtout les éditeurs, qui, quand ils invitent quelqu'un... En fait, celui qui invite quelqu'un, il paye un tiers de sa rémunération, et les deux institutions payent les deux autres tiers. C'est valable pour quelques grosses manifestations. Il me semble qu'Angoulême en fait partie, mais il y a Quai des Bulles aussi, enfin, il y en a quelques-unes. Et là où c'est un cercle vertueux, c'est que... cette mise en œuvre est incitative, et de fait les autres manifestations, Préambule par exemple, ce week-end rémunèrent les participations des auteurs, quoi.
Alors c'est vrai que la dédicace, c'est un temps important du festival, bien sûr, enfin surtout pour les lecteurs, et c'est aussi un temps toujours très compliqué finalement au niveau de l'organisation pour le festival. Alors c'est beaucoup pris en charge par les éditeurs qui font leur planning, etc. Mais je repense à Préambule, qui a mis en place l'idée qu'on pouvait venir avec trois de ses albums.
Ouais, alors ça, chacun a un peu sa cuisine là-dessus. Mais alors la rémunération de dédicace, elle est mal nommée, ceci étant, parce que c'est pas une rémunération de dédicace. En fait, c'est une rémunération de présence sur le festival. Ce qui change aussi beaucoup de choses, parce que si on parle de rémunération de dédicace, on va commencer à avoir mauvaise conscience quand on rate des dessins, par exemple, ou peut-être avoir le sentiment qu'il faut être à une certaine hauteur. Oui. Et ça peut arriver. Enfin, la dédicace, c'est un truc super ingrat, parce que si c'est réussi, c'est normal. Et si c'est raté, c'est de notre faute. Alors que dans les faits, c'est pas comme ça qu'on travaille, nous. On fait des crayonnés, on gomme, on commence. Si c'est raté, on met à la poubelle et on repart de zéro. Donc il y a...
Faut pas se louper, là.
Faut pas se louper. En fait, ça ressemble pas à notre métier. C'est une espèce de pirouette qui est pas notre boulot, la dédicace. Donc moi, j'aime bien l'idée que ce soit pas lié à la dédicace, en fait, cette rémunération. Et que ce soit une espèce de défraiement sur le fait... Parce qu'en fait, ce qui est valeureux là-dedans, pour les auteurs, c'est de prendre de leur temps pour pas être en famille et aller se faire chier dans un festival, pour le dire.
Oui, c'est ça, parce que c'est le week-end à chaque fois.
C'est le week-end. Et que ce truc-là soit valorisé, identifié, c'est bien. Et je trouve ça mieux que de se dire, lui, on va le faire venir, il va faire des dessins et on va le payer pour ses dessins. Voilà.
Mais après, tout est géré par les éditeurs. Enfin, je veux dire, l'obligation, par exemple, d'acheter un album sur place, tout ça. Le festival, vous préférez pas...
Nous, on s'en mêle pas tellement de ça. C'est géré par celui qui tient le stand. Donc, des fois, c'est l'éditeur, mais des fois, c'est le libraire, tout simplement. Et puis, c'est assez légitime que le libraire, il ait envie de gagner sa vie aussi. C'est une toute petite maison d'édition, ou plus exactement, quand l'auteur il se fait chier sur sa table, je pense qu'il sera pas mécontent qu'on lui sorte un livre pour y faire un petit dessin, même s'il a pas été acheté sur place, quoi. En tout cas, moi, ça n'a jamais été un frein en ce qui me concerne. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans cette situation. Après, si j'étais le dessinateur de Black Sad, par exemple, et que je sais que dès que je m'assois, il y a 2000 personnes qui vont se mettre devant, c'est évident qu'il faut trouver une solution pour légiférer un peu et faire en sorte que ce moment, il reste sympathique pour tout le monde.
Et limiter le nombre de dédicaces, forcément, sinon c'est l'enfer.
Ouais, c'est un peu du cas par cas, quoi, ou du formule par formule.
Ça, c'est vraiment un des gros enjeux à chaque fois du festival.
Ouais. Ah, c'est vrai qu'au niveau.
Quand on est lecteur, client, je veux dire.
Au niveau de la somptuosité du dessin, on a interviewé M. Dubuisson, que j'adore, moi, qui signe un pied. Et on lui dit, mais si, on vous soupçonne de savoir dessiner, mais de ne pas faire exprès. Mais non, je ne sais pas dessiner, puisque je vous le dis, c'est bien la première fois que nous recevions un auteur. C'est vrai que lui, maintenant, le v'là couvert, maintenant, avec l'indemnité de présence plutôt que de l'indemnité de somptuosité. Voilà. Il est un peu plus couvert.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il continue à venir, je pense.
Monsieur très rigolo, avec qui on ne s'est pas pris la tête, bon, on le soupçonnait de cacher son jeu, et lui, mais non, puisque je vous dis que je dessine comme un pied.
Je suis vraiment mauvais.
Autre question qui fâche, un autre sujet qui fâche, c'est avec la crise économique, nombre de structures associatives, Canal B en fait partie, on commence à apprendre à accommoder la soupe aux cailloux, le serrage de ceinture, la réutilisation des vieilles culottes, la transformation des...
Faut compter ses sous.
Est-ce que c'est aussi le cas de...
Eh bien, oui, nous n'y échappons pas, nous.
Est-ce que cette année, c'est particulièrement probant, marquant depuis cette année, par exemple ?
En fait, ça arrive par vague, mais cette année, ça a été un vrai sujet. Pas pour mettre en péril le festival. Hein. Nous, on fait partie des structures déjà qui sont assez saines économiquement, mais qui en plus sont bien soutenues, donc on est plutôt protégés. En revanche, il nous arrive de devoir recalibrer notre offre. Donc parfois, on se dit cette année, on va pas faire tel volet du truc parce qu'on préfère mettre nos sous sur tel autre.
Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'expos cette année ?
Cette année, il y a moins d'expos, par exemple.
Et c'est lié à ça ?
C'est lié à ça, oui.
Ah, d'accord.
Et mais de la même manière que l'espace presse n'est plus tout là-haut, c'était trop cher parce que vous louez le palais du Grand Large.
On loue le palais du Grand Large, on loue les espaces et on est en permanence en recherche de nouvelles solutions. Et puis aussi pour ne pas être ronronnant, pour être mieux, pour faire vivre notre festival. Quoi.
Pour continuer sur cette histoire de financement, vous avez d'ailleurs mis en place, on le voit sur le blog, l'excellent blog du festival, un mécénat.
Alors, il me semble que c'est la formule légale mécénat, mais dans les faits, c'est plutôt une espèce de club privilège, ce truc. Ouais, un truc VIP.
On peut être membre de l'auteur à partir de 5 balles.
Monsieur Plume et Monsieur Pinceau, pour devenir mécène de Quai des Bulles, ça veut dire quoi si on devient mécène de Quai des Bulles ? Est-ce qu'on aura une canne et qu'on pourra se promener ?
Il y a une fresque, d'après ce que j'ai compris.
On a un fume-cigarette. Je sais, vraiment, je sais pas du tout.
Tu crois qu'il y a une fresque avec les noms des mécènes qui va être exposée ? J'ai un peu regardé. À partir de 5 balles, ton nom est sur la fresque.
Il y a un truc comme ça.
Ouais. Et puis après, il y a, selon ce que tu mets, c'est un peu le principe des crowdfunding, quoi. Tu as des...
En fait, on a fait du mécénat par le passé, mais il se trouve que je crois que c'est assez récent que le mécénat puisse être ouvert aux particuliers. Et c'était pour profiter de cette opportunité. Mais je connais pas bien les détails, j'avoue.
Par exemple, le membre collectionneur, tu vois, Roger, pour 60 balles, tu auras le mug, un joli magnète décapsuleur, et le t-shirt avec la mouette de l'année.
Alors, oui, parce que
tu vois, t'as des goodies.
On reviendra sur le merchandising. Moi, je suis un acheteur compulsif de mouettes. Et parce que c'était très bien depuis le passage de Bouzard.
Révolution Bouzard.
Ouais, la révolution Bouzard des affiches.
C'est vrai.
C'est vrai que c'était pas mal, ça. C'était,
c'était bien. Ouais.
Pour Quai des Bulles, ça a été une super trouvaille.
C'était bien. Je sais pas, c'est la trouvaille qui nous a trouvé, j'ai l'impression. Hein,
parce qu'en plus, jamais une affiche de Quai des Bulles n'avait été aussi minimaliste.
Exactement. Elle n'a pas fait l'unanimité tout de suite dans l'équipe. Puis, il a fallu s'y habituer. Et puis, à un moment, c'était évident que c'était ça, quoi. On était un peu dubitatif sur l'accueil du public, mais il a extrêmement bien réagi tout de suite.
Ouais, et en plus, maintenant, cette espèce de goéland rochon
ronchon, c'est ça, là, dans la foulée de
la marque de fabrique de Quai des Bulles.
Dans la foulée de cette affiche, là, on a demandé à Bouzard s'il était OK pour continuer à nous dessiner des mouettes tous les ans. Donc tous les ans, il dessine de nouvelles mouettes, il fait des versions en lien avec l'affiche de l'année. Ouais. C'est super drôle. Moi, j'adore ce personnage.
Ouais, moi, j'aime bien sa tronche, la tronche de goéland pourri, comment dirais-je, qui fait la gueule. C'est assez génial. Bon, je pense que, en tout cas, bon, en ce qui me concerne, j'ai fait un peu le tour des sujets qui fâchent. Une question peut-être que vous ne pourrez pas me répondre, mais pour un festival de l'envergure de Quai des Bulles, c'est quoi le budget? Ça doit être colossal quand même.
C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ouais, je n'ai pas le détail là-dessus. Ah. Là, je ne sais pas. Je connais le montant de ma facture et je sais que ça fait déjà plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et c'est partagé entre ce que vous allez gagner avec les stands et ce que vous avez en subvention, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et les billets d'entrée quand même aussi. Mais il y a une majorité d'autofinancement de mémoire. Mais là, j'ai peur de dire des conneries. Si je commence à parler des budgets, je maîtrise vraiment pas du tout.
On
n'est
pas professionnel, donc on ne va pas dire des conneries.
Exactement.
Mais il aime bien parler sous quand même.
Non, mais c'est une problématique qui risque de... Vous voyez, par exemple, Dieu merci, Quai des Bulles n'est pas dans la région Loire-Atlantique, parce que la Morançais, que le diable emporte, elle a tout flingué, quoi. Elle a vraiment tout flingué. Même le planning familial est passé...
Je trouve un peu tempéré, quand même.
Bah écoutez, j'aime pas la Morançais. Bras droit d'Edouard Philippe, ça nous donne une petite idée de la sauce à laquelle on va être mangé si le Edouard devait présider aux destinées de la France, ce que je n'espère pas. Et effectivement, la Morançais, dans le monde de la culture, c'est un peu la Attila de la culture. Ouais, là où elle passe, la culture trépasse.
Oui, tout à fait, on a cette chance.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à Quai des Bulles, passons à ces fameuses expositions?
Eh ben, plein de choses super bien. Alors, j'en profite pour vous dire qu'il y en a deux qui sont d'ores et déjà visibles. Il y en a une qui s'appelle De façade en façade, qui est sur le parvis de la Grande Passerelle. Donc là, en fait, on a toute une offre qui s'adresse un petit peu plus au Malouin, peut-être, parce que c'est sur un temps élargi par rapport au festival et parce que ça commence maintenant, surtout. Et donc, c'est des expos qui sont beaucoup plus légères pour nous, parce que c'est des expos de reproduction. Il y a une expo d'extérieur qui est donc de façade en façade, qu'on fait avec une toute petite structure d'édition qui s'appelle Polystyrène. C'est assez joli, c'est un truc très, très arty, je ne sais pas si vous connaissez cette boîte. Mais ils sont très, très inventifs dans le... Des travaux qui sont proches du livre-objet, voilà, très arty. Et dans la Grande Passerelle, donc la médiathèque de Saint-Malo, il y a une expo sur la transidentité,
ouais,
qui s'appuie sur cinq ouvrages, autant d'auteurs, d'autrices, et qui a ouvert ses portes donc hier soir, qu'on peut d'ores et déjà visiter.
Vous n'avez pas peur d'une manif catho
Ben, on verra bien, non, il n'y a pas de raison.
Par les temps qui courent, on ne sait jamais.
Ouais, parce que dès qu'ils voient quelque chose, si c'est eux, ça...
Caché ce sein que je ne saurais voir.
Ou ce trans, comment dirais-je, fauteur de troubles.
Toujours essayer d'être un peu quand même
c'est
aussi...
C'est pas très trumpien, si on commence à trop...
Mais il y a toujours eu des expos autour des problématiques écologiques, enfin sociétales. Vous n'êtes pas un festival déconnecté non plus du réel, parce qu'on est dans les petits Mickey, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, et puis on est le fruit de ceux qui composent notre équipe. C'est une envie portée par un membre du CO, de l'ASSO, qui avait envie de s'intéresser à ça, tout le monde a trouvé que c'était une excellente idée. Enfin voilà, il n'y a pas d'angoisse là-dessus, mais quand on a fait une expo sur l'écologie, il n'y a pas eu de manif de la FNSEA devant. Hein. Je ne suis pas certain que ce soit systématique, ça.
Non, mais le fond de l'air se rafraîchit, quoi.
Ouais, j'entends bien. Si seulement les gens pouvaient se contenter de râler et de ne pas lire ce qui ne les intéresse pas.
Parce que je crois que c'est déjà arrivé à Quai des Bulles que vous soyez embêté à cause de dessins. Je crois que c'était un an ou deux.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a eu une petite plainte, mais c'était dans un contexte un peu particulier de notre point de vue, parce que c'était sur l'espace public dans une expo d'extérieur, et c'était après le festival en plus. Et de ce fait-là, dans un souci de bonne relation avec la mairie, on a consenti à écourter un petit peu le temps d'exposition. C'était avec Coco n'aime pas le capitalisme.
C'est ça,
ouais.
que l'on n'aime pas le capitalisme, qui était en faveur de la censure de M. Bastien Vivès et qui, lui aussi, va connaître la censure. Ben voilà. Il ne faut jamais jouer avec la censure.
Je ne sais pas. Moi, ce que je retiens, c'est que l'expo a été visible tout le temps du festival. Pour moi, c'est vraiment assez anecdotique, en fait. Mmh.
Autre chose, moi, il y a un truc, on va reparler du détail des expos, un truc qui est peut-être un peu frustrant dans les expos, c'est que c'est justement leur caractère temporaire. Alors, d'où l'intérêt d'aller au festival, parce que sinon, on la verra plus. Mais, on en avait parlé avec Préambule, ils ont, avec le festival de BD de Saint-Brieuc au Légué, ils ont collectivisé une expo comme ça, qui a été exposée au Légué, donc à Saint-Brieuc, et également qui s'est retrouvée à Préambule. Est-ce que c'est une démarche que vous avez adoptée aussi, vous, à Quai des Bulles ?
Tout à fait ! Mais oui, non, mais précisément avec le Légué, on fait ça depuis des années, en fait. Depuis
Une espèce dizaine de panneau qui peut aller à l'extérieur, c'est bien
on
ça.
On a une coproduction qui, me semble-t-il, est pilotée par Saint-Brieuc, par le Légué, et qui ensuite nous est prêtée. C'est vrai, c'est une coproduction, quoi. Il y avait un troisième festival, mais je me demande si c'est partirait de l'équation. Toujours est-il que cette année, c'est autour de Hellfest et Rookmout.
Ah oui, j'ai vu ça.
Donc voilà, c'est...
Monsieur Pixel Vengeur va être à l'honneur.
Monsieur Pixel Vengeur aux manettes. Et cet accord existe déjà. On le fait aussi avec d'autres structures parfois. On a même, il y a très longtemps, fait une expo en collaboration, en coproduction avec Angoulême, qui a été à Quai des Bulles, puis ensuite à Angoulême. C'était sur Monsieur Andreas, qui avait demandé à ce que cette exposition soit organisée par Quai des Bulles, ce qui était plutôt sympa de sa part.
C'était à René avant de donner Monsieur Andreas.
Ouais, tout à fait. Oui. Et ça se fait quand même pas tellement, parce que c'est assez lourd. En fait, dès lors que c'est des planches originales, déjà, c'est un peu compliqué. Il faut stocker tout ça, il faut assurer tout ça, etc., etc. Et c'est souvent vachement prévu pour le lieu qui y accueille, quoi. Donc, à la fois, c'est super frustrant de mettre cette débauche d'énergie pour juste 3 jours de présentation. Et en même temps, c'est un peu compliqué de faire autrement. On s'est posé la question régulièrement. On n'a pas de garantie non plus que si on fait une expo pour la louer, elle sera relouée. Et puis, ça se conçoit vraiment pas du tout de la même manière, une expo à louer et une expo pas à louer.
Alors, est-ce que vous les filmez, par contre ? Est-ce qu'il y a des archives filmiques des expos ?
Il y a des archives, oui. Ouais, tout à fait.
Parce que ça peut être intéressant, quand même, de garder une trace de
Je
pense à l'expo Flux Glacial, où on avait, pour moi qui suis un grand fan, effectivement, il y avait une foultitude de planches, de binets, tous les grands de ce journal.
Je ne suis pas certain qu'elles soient filmées façon visite filmée, mais il y a un archivage de chaque festival, il y a une équipe photo, vidéo qui passe. En revanche, on a fait pendant le Covid une expo qui s'appelait Bal et Masque, qui, elle, a été entièrement virtualisée. Pour être
diffusé sur
internet en ligne, ouais.
Ah, c'est chouette ça.
Après, il y a peut-être des problèmes de droit. Par exemple, certaines autrices ou certains auteurs peuvent ne pas avoir envie de voir leurs travaux exposés un peu partout.
C'est très possible qu'il y ait des histoires de droit, parce qu'en effet, dès qu'on est confronté à une bonne idée comme ça et qu'on gratte un peu, on se rend compte que c'est une bonne idée, mais que c'est très compliqué à mettre en place. Quoi. Ah.
Alors, parmi toutes les expos, donc on a déjà cité quelques-unes, celle sur la transidentité en BD, M comme métal. Moi, j'ai noté celle autour de Sixtine Dano et son album Sibylline, qui avait été chroniqué par Matadora ici. Exactement. Ça va être très chouette. Ça va être dans le Palais du Grand Large, je crois.
Ça va être dans le Palais du Grand Large. Sixtine Dano, en plus, ce qui est notable aussi, c'est que c'est un premier album.
Ouais. C'est une entrée fracassante, je crois qu'on peut le dire.
C'est Mémoire d'une Cone Girl.
Exactement.
C'est un peu...
C'est l'histoire d'une jeune fille qui monte à Paris pour des études d'architecture.
Et puis comme ça, je pense. Parce qu'à mon avis, le propos, il va quand même bien au-delà de ça. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette BD, c'est que c'est sur la prostitution étudiante, en gros. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce bouquin, c'est que c'est pas du tout jugeant. Ça porte une voix, mais il s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, quoi. Pas plus les gens qui font appel que les personnes qui se prostituent. Et donc l'exposition est d'ailleurs une exposition vraiment thématique là-dessus. C'est ce livre-là, mais le propos est
contextualisé.
Pas tant de montrer les belles pages que de parler de ce
phénomène, ouais. que généralement on imagine plutôt en Asie, au Japon par exemple, où on sait que ça est depuis longtemps, mais non, en Europe, en France, effectivement.
Ouais, tout à fait.
C'est aussi ça.
Tout à fait. Et Sixtine Dano, c'est hyper impliqué dans l'exposition.
Ouais, j'ai noté qu'elle était effectivement présente au festival.
Alors, quelle autre expo ? Parce que vous avez la page ordinateur devant
Il y a celle de Monsieur Nicobi, dont on va bien évidemment parler, mais autrement, il y a Sylvain Vallée aussi qui va être à l'honneur.
Sylvain Vallée, qui est un régional de l'étape aussi, il est mal loin depuis quelques temps. C'est un auteur important qui fait de la bande dessinée réaliste qu'on pourrait qualifier de classique. Mais finalement, il n'y a pas tant de gens qui font du classicisme aujourd'hui. Et ça revient sur... C'est vraiment un panorama de toute...
Il était une fois en France, etc.
Exactement, de toute sa carrière. Tananarive, il était une fois en France. Son 13 Mystery, etc. etc. On l'a connu jadis, pour ceux qui s'en souviendraient, comme auteur d'une affiche avec une réplique des Tontons Flingueurs où tous les personnages étaient... était caricaturé, je ne sais pas si ça vous parle.
Oui. Qui était archi connu, archi partout, en t-shirt, en mug. tu ne l'avais pas à 50 ans, tu étais un raté.
Oui, c'est vrai. Quand ils sont bistro,
quand ils sont j'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Ouais.
Et non, mais c'est un auteur très brillant, c'est vraiment maître.
J'avais jamais fait le lien. Et maintenant que vous le dites, le dessin, c'est d'une évidence. Parce que le nez de Ventura ressemble tellement au nez du personnage de Il était une fois en France, il y a cette courbure. Je voyais. Vous m'apprenez un truc. On a bien fait d'inviter ce monsieur. Il a l'air bien.
Un jour, on n'apprend rien. C'est une journée perdue, mon bon Plume.
Plume, moi, c'est Plume. Pas Plug. Plug, c'est autre chose.
Plug. Qu'est-ce que vous avez repéré autrement, mon bon Plume ?
Le phénomène radiant.
Le phénomène radiant. Alors, c'est un peu une petite satisfaction pour nous, parce que ça fait des années qu'on a envie de faire quelque chose autour du manga.
Ouais.
Et ça y est, on a trouvé une porte d'entrée. Parce que l'enfer avec le manga, c'est que c'est une tannée de travailler avec les Japonais. C'est une logistique qu'on n'est pas capable d'assumer, nous. Pour des histoires de coûts, de manières de procéder.
Puis à l'envers, via la 10, du fait de la planète et tout.
Plus sans compter que
sans compter.
Et Radiant, c'est une série hallucinante qui cartonne à fond. Les bananes, ça explose dans tous les sens. C'est un truc pour
Manuel Lisa,
pour jeunes.
Tony Valente,
un auteur français.
Ouais, c'est ça qui est fou.
Il est même adapté en animé au Japon, figurez-vous.
Oui. Il a réussi effectivement à remonter à la source quelque part.
Comment vous avez résolu les soucis pour avoir cette expo-là, alors, puisque vous dites que c'est compliqué.
C'est un Européen, c'est un Français qui fait du manga.
C'est un auteur français, tout à coup ça rend tout assez simple.
Pas d'histoire de pied à l'envers, etc.
non, rien de tout ça. Mais le manga prend une jolie place dans notre programmation, parce qu'on a un pôle manga aussi, des éditeurs spécialisés manga qui viennent.
Oui.
On essaye d'accompagner ce...
Enkama, etc.
Grosse tendance.
Moi, je trouve qu'il y a une production de plus en plus intéressante dans le manga. Et puis il y a alors un type obscur, mais comment il s'est débrouillé, Mine de plomb de Franquin.
Ouais.
Alors comment il a réussi à
être beau, ça, hein.
Alors c'est vrai que ça m'a touché parce que Idée Noire, moi j'en ai un souvenir, c'était paru, je sais pas si vous vous souvenez de ça, dans des petits j'ai lu BD. Des tout petits trucs. J'étais au lycée, je crois. Où on avait découvert plein d'albums comme ça, je me souviens de Pacouche Blues et des différents trucs. Et ce truc-là, c'était devenu vraiment un truc culte dans mon lycée, quoi. On avait appris les répliques comme on apprenait celles des Tontons Flingueurs, quoi. Surtout ne pas péter, tu sais, avec le léopard. Votre plainte a été. Il y a des mecs qui serrent les fesses.
Allez-y, on coupera au montage.
Il y avait plein de répliques et de blagues.
En effet, c'est mythique, cette série.
C'était une découverte d'un Franquin qu'on connaissait absolument pas.
C'est vous qui avez décidé de faire cette expo, Monsieur Nicobi ?
Pas tout à fait. C'est une proposition de la maison d'édition de Fluide Glacial. qui sort un très beau artbook avec plein de croquis exhumés, de travaux de recherche, de scénarios.
C'est Fluide Glacial qui est propriétaire qui peuvent l'éditer.
Ouais, c'est Fluide Glacial. Alors le seul, je ne sais pas trop, je ne me rentrerai pas dans ces trucs juridiques où 12 avocats ne sauraient pas trop que répondre. Mais en tout cas, c'est Fluide Glacial qui édite les bandes dessinées et c'est Fluide Glacial qui va éditer ce livre. Et donc à cette occasion, ils nous ont proposé de faire une exposition.
Et là, vous avez levé la main.
Et là, on a levé la main, ouais. Et quand il était entendu que c'était avec des planches originales, en plus, on était drôlement contents parce que c'est quand même un truc assez rare.
Vous avez essayé
de Franklin, on les voit pas tous les jours.
Vous avez essayé de remplacer avec des copies bien faites.
Évidemment.
Par intelligence artificielle.
Faut pas trembler dans les ancrages.
ouais, non, c'est assez émouvant d'avoir ça en main, en effet. Et c'est vraiment magnifique.
Vous les avez déjà eu en main, j'imagine. Vous les avez déjà en main.
Ça y est, depuis pas mal de temps, non, mais on a été les récupérer. C'est pas très grand.
C'est pas très grand.
Non, c'est pas très grand. Ça fait. C'est plus petit qu'un A3, je crois. De cet ordre-là, mettons un A3, à peu près.
Et il y a des ratures, du maître, des collages.
Pas beaucoup. Je les ai pas vues dans le détail. Elles étaient emballées dans un petit papier de soie, donc j'ai pas vu vraiment en détail, mais ça m'a eu l'air drôlement propre. Ce que j'ai vu.
C'est vous qui avez fait la sélection des pièces?
Non, la sélection était déjà faite, mais on a demandé quelques ajouts pour balayer l'ensemble de la carrière de l'artiste. Donc, on a une grosse douzaine de planches et une douzaine de croquis et des agrandissements pour apprécier.
Il y a les cartouches pendant ta gueule.
La justesse du trait.
Ouais.
Ouais, non, mais que de la planche mythique, que des travaux d'orfèvre.
Ça Roger, il faut qu'on aille voir ça.
Vous l'avez monté tout seul ?
Avec un certain Olivier Monneil,
okay.
Un bon camarade avec qui j'avais déjà travaillé sur Gossens il y a quelques années.
Comment on fait alors pour monter une expo ? Comment on fait ? On va choisir des angles qu'on a envie de mettre en avant ? Est-ce qu'on va rajouter des objets ?
Ça dépend un peu de l'ambiance. Quelque chose comme Franquin, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, c'est ce que je m'étais dit pour Gossens aussi. Quand on avait fait l'expo The Grossery, il y a quelques années, c'était exactement l'inverse. On avait eu envie de faire cette expo, précisément parce que le prétexte était de construire l'épicerie en taille réelle, quoi. Donc un truc monumental. Donc c'est un peu du cas par cas tout ça.
Oui, puis il y a une forme de sobriété dans les idées noires, de toute façon, dans le dessin en lui-même.
Pour moi, c'est comme aller au musée, hein, d'aller voir des planches de Franquin. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des trucs en plastique à côté, quoi. Les planches sont tellement magnifiques que ça me suffit complètement.
Non, mais je pense que mon ami espérait voler des trucs.
Est-ce qu'il y a un fond musical, par exemple ?
Non. Pas de fond musical, non. Un petit peu de. Moi, je vais pas dévoiler mon truc, mais c'est assez sobre. Ce sera très beau. Il y aura une ambiance plutôt sombre qui rappelle les planches et puis un petit peu d'esprit travail aussi puisqu'on aura quelques crobards. Mais non, ça va être magnifique.
Quelques infos pratiques peut-être ?
Sur Quai des Bulles, c'est parce que Monsieur Dicobi a déjà encore deux ou trois albums de BD à boucler pour demain.
Donc, des lunettes à retrouver.
Il va pas pouvoir rester. Et ben justement, une chose, tiens, puisqu'on parle de Monsieur Dicobi, Monsieur Dicobi était quand même fier de nous rappeler qu'un ouvrage qu'il a réalisé en compagnie de Monsieur Daniel Fuchs et de Joub, Mes années Harakiri, paru aux éditions Glénat, une réédition d'un ouvrage qui avait un autre titre, c'est ça,
Mes années bêtes et méchantes. C'était notre grosse frustration à l'époque. On n'avait pas pu l'appeler Mes années Harakiri pour de sombres histoires de droit, une fois de plus. On y revient. Et le livre ressort aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le même livre. Il y a un paquet de pages de bande dessinée au début qui n'ont pas beaucoup bougé. On les a un petit peu nettoyées. On a fait une petite modification. Mais surtout, il y a un bel appareil critique derrière de Stéphane Mazurier qui est le spécialiste de Harakiri. Je suis vraiment très fier, moi, qu'il y ait cet ajout à ce livre.
Donc dans cet ouvrage, vous, grâce à M. Daniel Fuchs, qui est un pilier de Quai des Bulles.
Exactement, Daniel Fuchs, on l'a connu à Quai des Bulles. C'est lui qui était responsable justement de l'espace de vente. Il était trésorier de l'association aussi. Et donc au détour de conversation, quand je suis arrivé dans l'assaut, moi il y a une vingtaine d'années, je comprends qu'il a travaillé pour Choron et pour Harakiri.
Et du coup, ça me, enfin voilà, je lui ai tiré les vers du nez, j'ai embarqué mon copain Joube là-dedans, et puis ensemble, on a fait cette bande dessinée. Quoi.
Ok.
Qui raconte son parcours au sein des éditions du Square.
Voilà, et ça va ça reparaît, ça sortira
ça
quand
ça reparaît à l'occasion. Là, c'est vraiment le tout premier exemplaire qui est encore chaud de la photocopieuse. Ça sort à la fin du mois pour Quai des Bulles. Et
chez Glénat.
Et voilà, c'est ça, chez Glénat, dans la belle collection Les Cahiers de la bande dessinée.
Yep. Mmh. Chouette ouvrage.
Ouais. Et donc, ça c'est fait, vous avez pu à le faire, vous avez d'autres projets sans doute, monsieur Nicolas.
Oui, toujours un petit peu de projet évidemment. Un livre sur une belle histoire déjà qui va sortir au printemps prochain, qui s'appelle La fragilité des hommes, sur un petit village qui est confronté à l'arrivée d'une comédienne qui monte un projet de théâtre de rue. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça encore, mais c'est vraiment un très beau livre avec Vincent Zabus, du style, histoire romanesque, dramatique romanesque. Et puis par ailleurs, un livre avec François Sarano, toujours avec Vincent Zabus. François Sarano est un océanographe et on va présenter un petit peu sa vision du monde et son travail.
Ah,
c'est le genre de livre qui fait du bien et on apprend plein de choses.
Yes.
Et enfin, dans les tuyaux, mais un petit peu plus loin dans les tuyaux, un petit peu plus obscurs, un beau projet avec Pascal Jousselin, de série d'aventures humoristiques on espère voir paraître dans le journal de Spirou.
Et là, j'espère que vous nous ferez la gentillesse de venir en compagnie de M. Jousselin, qu'on n'a jamais encore interviewé.
Non, il nous a toujours filé entre les doigts.
On est un peu les gitans, parce qu'on
adore son
travail.
Il est imbattable.
Ouais, on adore son travail.
Il passe d'un mur à l'autre.
On le chronique régulièrement, et on ne l'a jamais fait venir, alors qu'il est rennais, en plus.
Il est rennais, il est formidable.
On n'est pas très fiers. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est vieux, monsieur.
Non, il traverse les murs, c'est le passe-muraille,
c'est
ça le truc.
C'est le passe-case.
Ouais, exactement. Rappelons, donc ça sera le 44e festival de la bande dessinée et de l'image projetée. Faut pas oublier ça.
Ouais, hein, c'est vrai qu'il y a des projections de films et d'animés.
Parce qu'on a parlé des expos, mais il y a souvent plein de petites animes,
des
jeux,
aussi, il y a
des
nombre de conférences sur les produits.
Énormément de rencontres. En fait, on a beaucoup développé ces axes-là, cet axe-là des rencontres ces dernières années. On a un peu plus de lieux qui s'y prêtent. Enfin, c'est le pôle qui émerge. Il y a une forte demande en plus. Hein. Le public est très friand des rencontres. Donc il y en a plein et le programme est complet sur le site du festival. Et les projections, pareil, on essaye tant que possible depuis quelques temps de faire des ponts entre les expositions et les films qui sont proposés.
Et ça sera le cas cette année ?
Ce sera le cas, ouais, j'ai plus la liste en tête, mais il y a des passerelles comme ça.
Yep. 24, 25, 26 octobre.
Ouais, c'est exactement ça, autour du Palais du Grand Large, mais il y a des choses gratuites à aller voir, donc en accès libre à la Grande Passerelle, dans la ville, et ça c'est déjà en place, on peut déjà aller visiter tant que la ville n'est pas envahie par tous les amateurs de BD.
Tout ce qui est évidemment en extérieur et à la Grande Passerelle, y compris les projections, sont en accès libre et gratuit.
Voilà, et ça ouvre vendredi à 9h30 et généralement dès 9h, il y a déjà une queue immense.
Vous avez
une idée de combien il y a eu de visiteurs l'année dernière? J'imagine que vous avez des chiffres.
On est toujours sur les mêmes chiffres, on est autour de 40 000 visiteurs, je crois que ça ne bouge pas trop.
En 3 jours, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien.
Ah, et si vous prenez le pass 3 jours, en plein tarif, c'est 25 balles.
Ouais, et il y a des tarifs réduits.
Et il y a des tarifs réduits,
des tarifs spécifiques. Qui ont un petit peu, pour ceux qui étaient déçus de ne pas avoir de tarifs réduits l'an dernier, par le passé, parce qu'ils étaient dans certains cas de figure, verront que c'est devenu possible. Alors je crois que ça concerne les personnes à mobilité réduite, par exemple.
Est-ce qu'il y a quelque chose pour les sourds?
Les demandeurs d'emploi et
les
personnes en situation
de
handicap.
Donc
est-ce que la sourdité
est-ce que ça marche?
Peut-être.
Je crois que les jeunes peuvent utiliser leur passe culture.
Allons donc.
Eh bien oui, j'ai vu ça sur votre site et j'ai trouvé ça très bien.
Très bien.
Très bien. Monsieur Minicobi, merci d'être venu.
Merci. On vous avait dit qu'on vous lâcherait au bout d'une heure. On vous lâche au bout d'une heure.
Impeccable. Ouais, 59 minutes.
Voilà.
Vous êtes formidable.
Une maison sérieuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quai des Bulles, 24, 25, 26 octobre, vous y retrouverez sûrement Monsieur Plume et Monsieur Pinceau, Monsieur Nicobi entre... On arrive à vous voir, on vous entreaperçoit quand même, mais on arrive quand même à vous entreaperçoit.
Je cours de couloir.
Oui, vous courez. Vous devez être rincé quand même, parce qu'après, il y a la démonture.
C'est un petit peu épuisant, ouais. Et après, il y a la démonture, comme vous dites, en effet, et ce n'est pas le moindre des efforts.
Ah. Alors, on vous l'a dit, pour ce qui concerne l'exposition Franquin, Monsieur Plume et moi, on s'en charge. Il n'y a pas de souci, on va emmener un grand sac.
Regardez dans nos yeux, qu'est-ce que vous voyez?
L'honnêteté.
C'était des petits dollars. C'est déjà une charge de moins pour ma... pour moi.
Vous voyez?
C'est bien. Merci, merci les amis.
Si on peut rendre service. À dire l'une musicale?
Yes.
Allez, à bientôt.
À bientôt. Merci encore d'être venu, Monsieur Nicobi.
Ciao, ciao.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
Florence and the Machine, Monsieur Nicobi nous a quittés. On espère qu'il va retrouver ses lunettes. Il les a perdues en venant. On n'y est pour rien.
Bah oui, oui, oui. Puis le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est venu en vélo. En vélo, pour retrouver les binocles, c'est mal barré.
On lui a pas trop demandé s'il distinguait bien quand même l'horizon.
Bah, je crois qu'il nous a pas reconnus, hein, mais on va pas lui gâcher. Mais
ils étaient sympas sur France Inter.
Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il est persuadé d'avoir été sur France Inter. Écoutez, on ne va quand même pas lui gâcher la journée. Voilà.
Alors, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être que vous avez.
Vous voulez commencer?
Ah bah si vous voulez. Allez, puisque tout à l'heure on évoquait Karine Hinder, et cette semaine j'ai pu mettre la main sur le nouvel épisode de Brume. On évoquait Karine Hinder puisqu'on retrouve un des personnages de la série en affiche sur l'affiche de Préambule, le festival très sympathique que nous avions chroniqué précédemment. Et ben voilà le début du nouveau cycle, puisqu'on a déjà eu une trilogie des aventures de Brume, cette petite fille sorcière finalement, dont on avait appris les origines. C'est effectivement elle, Naya, la sorcière qui protège le petit village où elle réside, qui est entourée de forêts pleines de monstres et de créatures étranges. On retrouve le trio qu'on avait quitté. Enfin, qu'on avait quitté. Il y avait quand même pas mal de petits signes annonçateurs que l'aventure n'était pas finie. On a maintenant clairement, identifié Brume comme étant la réincarnation donc de la sorcière protectrice de ce petit village qui ressemble fortement à Rochefort-en-Terre. Mmh. Et bien là, on va continuer encore à progresser dans la découverte de son identité, mais celle aussi de ses partenaires, et notamment de Hubert, à l'occasion donc d'une nouvelle aventure qui démarre sur
les chapeaux pointus.
Je cherchais comment le dire, puisque qu'on le voit bien sur la couverture, il va y avoir une autre sorcière, une affreuse sorcière qui va jouer un rôle très important dans le lancement de l'histoire. Et on la voit là dans le coin. Et puis, on voit bien que notre petite Brume a un chapeau de pirate parce qu'on va retrouver aussi des bateaux pirates dans cet épisode. Encore une fois, on va dire que le personnage de Brume entraîne ces deux personnages, ces deux acolytes, et notamment donc notre petit Hubert qui est toujours notre narrateur, et son fidèle compagnon à lunettes, dans une aventure qu'elle déclenche par ses, on va dire, son tempérament. Une nouvelle quête va se mettre en place, et cette fois il y a l'affrontement donc avec cette méchante sorcière, qui apparemment, elle aussi, a des liens avec son passé. Voilà, un nouvel épisode à 200 à l'heure, qui va très très vite. Un aller-retour entre une île pirate et le village d'origine, pour faire simple. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais on retrouve tous les ingrédients qui faisaient la saveur de cette série. Et notamment, moi, quelque chose que j'aime beaucoup, 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 c'est dans le dessin de Karine Hinder, c'est la place par moment laissée à des décors qui sont vraiment très beaux. L'île des pirates est vraiment très jolie. Les forêts sont aussi très, très chouettes. Il y a toujours plein de petits détails, des petits animaux dans les coins, etc. C'est vraiment charmant, beaucoup de jeux de mots aussi, beaucoup d'impertinence de la part de Brume, beaucoup de naïveté de la part des deux comparses qu'elle entraîne dans ses aventures, du suspense, de l'action. Vraiment encore un bon album. C'est calibré pour Tcho, donc on va dire plutôt normalement, on va dire pour un public jeunesse. Bon, enfin bon, si vous êtes un peu sensible quand même, si vous êtes un peu Plume, vous pouvez céder au charme de cette série. Et vraiment, c'est quelque chose, une série qui a une saveur très particulière parce que il y a comme il y a un phénomène à la Harry Potter, c'est-à-dire il y a vraiment une fanbase, notamment dans c'est effectivement dans les petits, et qui est prise en compte d'ailleurs par les deux auteurs puisqu'ils proposent tout un tas de petits suppléments. Il y a notamment dans cet album-là un QR code qui permet d'accéder à des dessins à colorier. On offre vraiment, vous voyez, on essaye de créer une communauté. Et je trouve ça plutôt très chouette, parce que c'est une chouette communauté autour de Brume, vu que c'est un très bel album, encore une fois.
En tout cas, c'est une BD qui ne lasse pas le jeune public, et elle a une popularité qui, je l'espère, va se renouveler encore avec cet
album. Oui, c'est toujours un peu casse-gueule de façon de lancer une deuxième saison, parce que la magie de la découverte n'est plus tout à fait là. On espère retrouver les ingrédients de base, mais il faut quand même, c'est un peu le syndrome du deuxième album en musique, quoi. Il faut apporter quand même quelque chose de nouveau dans la saga, dans l'histoire, là c'est plutôt réussi. Surtout le cliffhanger, c'est un tome de mise en place. Cette aventure est surtout intéressante par le cliffhanger de la fin, qui va nous amener à nous intéresser à un personnage qui est vraiment très sympa. C'est ce petit cochon asiatique noir là, Hubert, parce qu'il y a un cliffhanger à la fin de cet épisode. Et je crois qu'on est tous à l'attendre avec impatience. Donc Jérôme Pélissier au scénario, Karine Hinder au dessin. La nouvelle sorcière, Brume épisode 4, donc deuxième trilogie. Et quand vous allez à Rochefort-en-Terre, vous reconnaissez le village, etc. Et j'ai même découvert une bière qui s'appelle Brume, avec des jolies étiquettes de Karine Hinder. Je me suis permis d'en acheter, évidemment, parce que j'aime la limonade. Voilà, Brume, épisode 4, La Nouvelle Sorcière, Glénat, Collection de Chaux, Jérôme Pélissier, Karine Hinder. C'est reparti pour l'aventure. Voilà pour moi.
Alors, rien à voir, absolument rien à voir, mais rien à voir du tout, mais ça a vraiment rien à voir, puisqu'il s'agit pour moi maintenant de vous parler des aventures de Théodore Lascaris. À travers l'album Orient Perdu, le tome 1, Nice, Malte, l'Égypte, que nous devons au talent de M. Ferrandez.
J'ai presque envie de dire l'orientaliste.
Oui, l'orientaliste qui a écrit nombre d'ouvrages autour de l'Algérie. Il a repris des ouvrages de Camus également. Et il sera, je le dis, parce que alors, c'est pour ça que j'avais envie de le chroniquer aussi. Donc cet album, pour présenter cet album par les éditions Daniel Baguen, M. Ferrandez sera présent à Quai des Bulles à la fin du mois d'octobre. Voilà. Alors, Théodore Lascaris, là, on n'est pas dans la fiction. Jacques Ferrandez, à travers deux tomes, là, c'est le premier, nous fait découvrir les aventures d'un curieux bonhomme, un bonhomme un petit peu à touche-à-tout, architecte, dessinateur, peintre, quelque part, parfois aussi ne détestant pas le... de se mêler d'intrigues politiques. On est au 19e siècle et ce monsieur est un contemporain de Napoléon. Ben ouais, vous vous êtes bien, et vous et comme moi, d'ailleurs nous sommes des contemporains de Trump et de Poutine, on n'en tire pas forcément gloriole. Et monsieur Lascaris, lui, va s'approcher, lui, par contre, du tyran, de l'ogre. Corse, parce que il va, alors c'est un descendant. Ça serait Théodore Lascaris, ça serait un descendant de, comment dirais-je, d'empereurs byzantins, quand même, excusez-moi du peu, mais également de chevaliers de Malte, de l'ordre de Malte.
Voyez. D'accord, un héritage des croisades.
Un de ses ancêtres avait même été grand maître de l'ordre de Malte. Il est, pour cette raison, enterré dans la grande cathédrale de la Valette.
Mais Napoléon n'avait pas pris Malte, justement.
Justement, c'est alors que Théodore Lascaris, en tant que noble, avait quitté la bonne ville de Nice, qui, à l'époque, était indépendante, mais qui va se trouver embringuée dans la fièvre révolutionnaire. Eh bien, Lascaris va prendre ses clics et ses claques, et il va partir se réfugier à Malte, pour éviter de finir comme un ci-devant. Et, bien qu'on ne connaisse pas énormément, j'ai fouillé à droite à gauche pour avoir d'autres informations sur Théodore Lascaris, et quand vous tapez Théodore Lascaris, y a peu de choses. En fait, on vous renvoie tout de suite à l'ouvrage de Jacques Ferrandez, qui devient de fait quelque part le spécialiste de M. Lascaris.
Alors, comment l'a-t-il découvert ?
Alors, il l'a découvert parce que c'est un orientaliste, c'est un orientaliste,
érudit.
Et il va c'est un ouvrage qui va lui coûter pas mal d'années. Alors, on va avoir la chance, on devrait pouvoir le rencontrer et l'interviewer, donc on en saura plus. Et en fait, M. Ferrandez s'est appuyé sur une bibliographie, assez vaste. Il va fouiller dans la documentation sur Malte et l'ordre des chevaliers. Il va travailler également avec un monsieur qui s'appelle Robert Salé, qui est un historien, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle intitulé Les savants de Bonaparte. Parce que l'ogre corse, l'ogre corse, dans sa route vers l'Égypte, va s'arrêter à Naples. Il va en profiter à Malte, pardon. Il va en profiter pour conquérir Malte, histoire que les Anglais ne l'aient pas, parce que c'était quand même une île stratégique en Méditerranée. Il va s'emparer de Malte et Lascaris va réussir à se faire embaucher au titre d'architecte dans la campagne napoléonienne. C'est là que ce monsieur Lascaris va quelque part tomber dans le chaudron oriental, un peu comme monsieur Ferrandez il va tomber amoureux d'une égyptienne qui, en fait, n'est pas vraiment égyptienne. C'est une caucasienne rescapée d'un seigneur mamelouk chez qui elle était...
C'est digne de Hugo Pratt, tout ça.
Quelque part. Mais c'est une... Monsieur Ferrandez a dû inventer des dialogues, naturellement, pour épaissir, etc. Parce que, encore une fois, de Lascaris, on ne sait pas grand-chose. Mais, par contre, cette rencontre est bien réelle. La rencontre avec cette femme, là, réchappée d'un harem de Mamelouks, les Mamelouks qui vont être les seigneurs locaux en Égypte, qui vont être éliminés par Napoléon. Alors que Napoléon, après la défaite d'Aboukir, va rapidement quitter l'Égypte pour faire le coup d'État que l'on sait en décembre 1799, Lascaris, lui, va rester en Égypte. Il va rester jusqu'au bout de la présence française en Égypte, jusqu'à qu'un traité de paix soit signé avec l'Angleterre et que ce soit des navires anglais, ce que j'ignorais totalement, des navires anglais qui vont rapatrier ce qu'il reste de l'armée française. Mmh. Parce que l'armée française, après avoir secoué les Mamelouks, eh bien... c'est là qu'effectivement, comment le père Napoléon ne va pas, Bonaparte encore à l'époque, ne va pas faire dans la dentelle, hein, comment, alors qu'il se prétend être le libérateur du peuple musulman, malheur aux Égyptiens qui, à plusieurs reprises, vont avoir envie de chasser les Français. Mmh. Hein, il va, ni plus ni moins, appliquer le droit. Hein, le droit égyptien, c'est-à-dire le pal, la pendaison, la décapitation, etc., pas faire beaucoup de prisonniers. Mmh. Hein, autant sur le théâtre, les théâtres militaires européens, les armées napoléoniennes n'avaient pas la réputation de massacrer ces prisonniers en Égypte. Et c'est là peut-être où le propos de c'est ça peut-être sans doute qui a intéressé M. Ferrandez, c'est qu'on est quelque part dans un peu le précolonialisme du 19e et 20e siècle.
Vous voyez, ça lui évoque la conquête de l'Algérie et
ouais,
des choses comme ça.
C'est ça. C'est-à-dire que ce qui anime Napoléon et ceux qui l'entourent, c'est soi-disant d'apporter la richesse des Lumières aux Égyptiens, considérés, malgré leur passé fabuleux, considérés comme une poignée de pouilleux arriérés. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et on voit effectivement comment, de quelle manière les Égyptiens vont réagir. On voit de quelle manière les Français se comportent. Mmh. Tout cela n'est guère brillant. Mmh. Tout cela va se terminer en eau de boudin, puisque effectivement, passé la défaite d'Aboukir, l'armée française qui reste en place en Égypte, elle est coincée. Il n'y a plus de bateau pour les ramener, donc ils sont coincés. Oui. Donc, avec le peu de troupes, le peu de moyens qui leur restent...
Parce qu'il y a la maladie aussi, si je me souviens.
Ouais, il y a eu des maladies, etc., des désertions. Et puis, je vous dis, nombre d'émeutes, hein, parce que les Égyptiens ne vont pas se laisser tondre le turban comme ça. Mmh. Et on voit justement, et on voit apparaître effectivement notre personnage, l'Ascaris, qui décide... De s'appuyer sur les Coptes. Alors les Coptes, c'est une vieille communauté égyptienne pré-musulmane. En fait, ce sont des Égyptiens christianisés. Mmh. Hein, ils n'appartiennent pas à l'église catholique romaine, mais plutôt à l'église, sont plus proches de l'église orthodoxe quant à eux. Mmh. Mais ils sont chrétiens. Mmh. Et de ce fait, ils n'étaient pas très bien vus par les musulmans. Et l'Ascaris prétend s'appuyer sur les Coptes, justement, pour maintenir la présence française en Égypte, au détriment des musulmans. Mais ce n'est pas un avis qui fait l'unanimité dans l'état-major français, parce que les Coptes sont loin d'être majoritaires. Mmh. Et s'appuyer sur une minorité contre la majorité, ce n'est peut-être pas le plus raisonnable. Bref, ce projet ne verra jamais véritablement le jour, même si l'Ascaris va réussir à créer une espèce d'embryon d'armée copte, qui va, un peu comme Noarki, va filer avec armes et bagages dans les bateaux anglais, et va se retrouver coincé en France, où ils vont être traités comme des pouilleux. Sauf les Mamelouks. Alors les Mamelouks, eux, vont pouvoir être incorporés dans l'armée de Napoléon. Et on voit d'ailleurs des tableaux de Delacroix où on voit ces célèbres Mamelouks là, qui font le coup de sabre contre les Autrichiens, les Russes, les Prussiens, les Anglais. Pour ce qui est du bataillon copte de l'Ascaris, l'avenir est beaucoup plus sombre. Vous voyez, parce qu'il se retrouve en France sans un dinar en poche et puis avec les autorités françaises qui ne veulent plus véritablement avoir affaire à eux. Voilà. On découvre ainsi plein de choses. On découvre un personnage dont j'ignorais tout, et je vous dis, quand j'ai essayé de chercher sur internet des informations sur Théodore Lascaris, il y en a peu, il n'y en a pas, ou presque pas, et on vous renvoie, et c'est ça, c'est là où la bande dessinée quand même devient un genre quand même érudit, puisqu'on nous renvoie, si vous voulez en savoir plus sur Théodore Lascaris, eh bien faites donc l'acquisition d'Orient perdu, tome 1, Nice, Malte, l'Égypte, paru aux éditions Daniel Maguen. Et il y aura un deuxième tome, parce que à la fin du premier tome, donc Lascaris est revenu en France, et puis, ma foi, il bouine, il n'obtient pas ce qu'il voudrait, il aimerait bien revenir à la tête de son bataillon copte pour conquérir l'Égypte, mais vous voyez bien qu'on a d'autres Anglais, Prussiens, Autrichiens et Russes à fouetter. On n'a plus trop les moyens de cette aventure, on va dire, extra-méditerranéenne. Et donc, de ce fait... on apprend à la fin de l'ouvrage que Lascaris décide de repartir en Orient pour essayer de de quelque part, de trouver sa place. C'est un aventurier. Il repart, il va repartir avec sa jolie chérie. Mmh. Et quelque part, certains spécialistes n'hésitent pas à dire de Théodore Lascaris qu'il est quelque part notre Laurence d'Arabie à nous. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Et d'ailleurs, il s'habillait. Rapidement, arrivé en Égypte, il va s'habiller à l'oriental, il va apprendre l'arabe, etc. Ce qui va lui permettre, plus tard, dans le deuxième tome, ce qu'on découvrira, de vivre tant et moultes aventures en Arabie, en Syrie, dans ce qu'on appelle le Liban aujourd'hui, et dans ce que l'on appelle aujourd'hui Israël, la Palestine de l'époque.
Faut-il vanter le destin de Jacques Ferrandez ? Oh, pas besoin,
Pas besoin pour les vieux crabes, parce que c'est quand même un vieux dessinateur, Monsieur Ferrandez. C'est un vieux de la vieille. Il a fait paraître nombre d'ouvrages, notamment chez Casterman, mais aussi chez Gallimard, chez Lattès, chez Librio, chez Nathan, Rue du Monde, Rue de Sèvres, Mercure de France, Actes Sud. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui est assis sur une pile de livres, une pile d'ouvrages, et avec des morceaux, notamment chez Gallimard, Casterman, pardon, qui lui ont valu d'être, très très connu à travers nombre d'histoires, L'Outre-Mangeur, Alger la Noire, Les Tramways de Sarajevo, Retour à Alger, etc. Mmh. C'est un auteur complet, il fait tout. Il écrit le scénario, il fait les recherches, et c'est un ouvrage dont on le sait qui lui a coûté quand même pas mal de temps et de travail. Voilà. Si vous aimez l'Orient, si vous aimez les épices, on va dire, et le goût de l'aventure, eh bien, jetez-vous tout de suite sur cet ouvrage, il y en aura deux. Orient perdu, le tome 1, Nice, Malte, l'Égypte, paru aux éditions Daniel Maguen. Et c'est naturellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Monsieur Jacques Ferrandez. Voilà.
Un petit morceau de Nick Waterhouse ?
Yes !
Ça fait jamais de mal.
Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar, no food in the fridge. I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go. A lot of medicine to go this fast.
Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable? Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine.
Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
takes a lot of medicine to go this fast.
On n'a jamais trop de Nick Waterhouse. Une programmation en douceur, décidément.
Oui, c'est Roger. Pour l'époque n'étant pas douce, j'avais envie d'un petit peu de douceur entre le futur gouvernement, comment le cornu qui ressemblera furieusement au gouvernement Bérou, avec les mêmes idées, les mêmes vieux horribles d'Atti, Retailleau, Darmanin. Un peu de douceur, ça nous change un peu de l'horreur, notre horreur quotidienne.
Festival donc Quai des Bulles très bientôt, nous y serons, peut-être que vous aussi, en tout cas on sera aussi là normalement la semaine prochaine, à moins qu'il y ait une grande marée peut-être.
Il y a une grande marée mais c'est milieu de semaine donc du coup ça sera fait en ce qui me concerne.
Et peut-être même qu'on trouvera un des affreux. Je crois, de la boutique dont on t'est ramené.
Oui, je crois que nous avons
le Carpetto, je crois.
Non, Flatulo. Ils ont décidé de l'appeler Flatulo. Carpetto, c'est quand même plus classieux. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Je veux dire, on ne va pas non plus...
Qui sommes-nous pour juger ?
Qui sommes-nous pour juger ?
Hein ? Moi, on m'appelle Plume.
Et moi, Pinceau.
En tout cas, bonne lecture.
Bonne lecture, tant qu'on a le droit.
Tant qu'on a le droit.